C'est Parcours sur RFL 101 et je reçois ce soir Anne Brunet. Anne, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de persévérer pour réussir.
Il faut, et de toute façon, je pense que, effectivement, quand on a des idées, quand on a des convictions, il faut les défendre, parce que ce qui est important, c'est ce qu'elles portent. Et la réussite, ça dépend de quoi on parle. Quand c'est pas de la réussite individuelle, je pense que la réussite collective d'un projet, par exemple, ça dépend de beaucoup de circonstances, de tout un tas de choses, et pas simplement de l'effort individuel de celui qui le porte.
Alors, vous représentez Lutte Ouvrière.
C'est exact.
Organisation politique à laquelle vous militez depuis un certain temps, donc on va parler de votre parcours. S'il fallait un seul mot pour vous qualifier, vous, la joie ?
Oh, sûrement, mais la persévérance aussi.
La persévérance, d'accord. Vous êtes né le 13 mai, on peut dire l'année,
oui.
1967. Qui est né en mai 67 ?
Qui est né en mai 67 ?
À part vous.
Je ne sais pas qui est né en mai 67, mais je sais que... Un an après, pile poil un an après, le 13 mai 68, naissait un grand mouvement de grève. Un grand mouvement de grève de la classe ouvrière et de la jeunesse.
Il y a une relation de cause à effet, là ?
Avec ma naissance un an avant, je suis pas sûre.
Il faut remercier vos parents, alors. Ouais. Sandrine Bonner.
Ah, peut-être.
Vous avez exactement le même âge que Sandrine Bonner. Vous venez de Poitiers, donc vos parents sont de Poitiers.
Pas tout à fait, mais disons que j'ai fait mes études là-bas.
D'accord. Mmh. Aujourd'hui, donc, vous êtes professeur de sciences au lycée professionnel Albert Bayet.
Oui, maths sciences, parce que dans le lycée professionnel, on est polyvalent, enfin en tout cas bivalent, on a deux disciplines.
Ils ont quel âge, vos élèves ?
Entre 15 et 19 ans.
Et qu'est-ce qu'on apprend entre 15 et 19 ans en maths, par exemple ?
Ah, on apprend, on reprend des bases déjà,
ouais.
Des bases... pas seulement de calcul, de pourcentage, des choses qui peuvent être utiles dans la vie professionnelle directement, mais on donne aussi des bases plus abstraites pour que les jeunes puissent continuer des études au-delà du bac pour une part d'entre eux.
Qu'est-ce qui vous a fait aimer les maths, vous ?
Sûrement une professeure. Il y a des chances au collège. et également des aspects un peu justement abstraits. Hein, c'est intéressant, le raisonnement, l'abstraction... J'ai sûrement connu une professeure en quatrième et en troisième qui a su me faire découvrir ces aspects-là, ça m'a plu.
Oui, ma prof en quatrième, elle me disait « les maths, c'est un jeu ». En fait, je lui ai fait un procès pour escroquerie. Parce que c'est pas vrai.
C'est un jeu où on ne gagne pas immédiatement. Enfin, ça dépend qui, mais...
Ok.
Faut le prendre comme ça, disons. Faut le prendre comme un jeu.
À votre avis, le niveau des élèves, il a baissé ou c'est trop facile de dire ça comme ça ?
Je pense que les exigences ne sont pas les mêmes, surtout. Il y a de toute façon une dégradation dans toute la société et les jeunes, ça pèse sur eux. Donc ça doit dépendre un peu des milieux. Après là, on parle de la période plus récente, la période avec le Covid ces deux dernières années, c'est sûr que ça n'a pas arrangé les choses parce que c'était des difficultés d'apprentissage et moi je voudrais tout de suite dénoncer les conditions d'études qui ont été les nôtres depuis deux ans et en particulier l'année passée où les élèves ont manqué énormément de scolarité. Et le travail à distance, c'est du bluff pour la plupart. Ça ne se fait pas correctement, ça marche pas, c'est insuffisant. Et ça creuse encore plus les inégalités. Mais bon, on le sait tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans une société où les moyens de faire autrement que de renvoyer les enfants à la maison, ils existent, où ils auraient dû être mis en place, ces moyens-là, évidemment. Que dans une société comme la société française, aussi riche que ça, on aurait pu... immédiatement embaucher des gens, mettre des bâtiments supplémentaires peut-être, ou trouver des locaux pour diviser les classes, parce qu'en fait c'est ce qu'on a fait par exemple l'année dernière, diviser les classes, sauf que ce qu'on a pratiqué c'est que la moitié de la classe reste à la maison et l'autre moitié est en cours. Donc une semaine sur deux, les élèves n'avaient pas classe, ou une semaine sur trois, suivant les établissements, etc. On aurait pu faire en sorte que tout le monde ait une scolarité normale, en groupe beaucoup plus petit qu'en temps normal, à cause de la pandémie, en embauchant, en trouvant les locaux, etc. Mais tout ça, ça a un coût. Hein, mais le quoi qu'il en coûte, c'était pour le grand patronat, c'était pas pour l'éducation nationale ou l'éducation tout court de nos jeunes et des enfants.
Oui, vous êtes vachement politique. Mais est-ce que tout est politique comme ça ?
Tout est politique dans la vie. La défense de notre beefsteak, les conditions dans lesquelles on vit, on travaille, on circule, les relations sociales quoi, et les échanges qu'on a, tout est politique parce qu'on est contraint dans cette société par des normes, par des moyens.
Mais si j'enlève toutes les normes, ça s'appelle le libéralisme ?
Mais ça dépend quelles normes. Moi, je pense que il y a des normes qui ne sont pas bonnes. Le libéralisme, on parle de quel libéralisme?
Le
libéralisme économique. Mais moi, c'est pas ces normes-là dont je parle. Et en plus, le problème, c'est que les normes qui sont faites, elles sont faites pour contraindre les travailleurs. Par exemple, je viens d'évoquer la période Covid. Bon, dans les entreprises, il y avait des tas de normes. Dans la vie quotidienne de tas de gens, alors bon, ne serait-ce que le masque, les confinements, tout un tas de contraintes qu'on a vécues, c'était des normes qui s'appliquaient apparemment à toute la population. Mais la réalité de tout ça, c'est que c'est des normes qu'on applique au monde du travail, principalement, parce que, bon, il faut quand même aller bosser, même en s'entassant dans des transports en commun, où les distanciations sociales n'existaient pas, etc. Par contre, donc là, parce qu'on met pas les moyens. On n'a pas mis les moyens, enfin, je dis la société, c'est-à-dire la société telle qu'elle aujourd'hui, les gouvernements, pas seulement celui de Macron, mais même les gouvernements précédents, c'est la succession des gouvernements qui a abouti à une situation qui fait que l'hôpital n'était pas en mesure d'assumer une situation comme ça. On a vu aussi les contradictions du gouvernement quant à l'existence des masques au tout début de la pandémie, qui lui a fait tenir un discours contradictoire. Tout ça, ça prouve que la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, telle qu'elle est dirigée aujourd'hui par les représentants de la classe riche, nous impose à nous tous des normes qui ont pour but de nous contraindre à vivre la vie qui convient à ce qu'on se taise et qu'on aille bosser pour enrichir la classe riche.
Mais vous écoutez, j'avais presque l'impression que c'était le gouvernement qui avait créé le Covid pour écraser les petits.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que sa façon de le...
Je fais le raccourci provocateur exprès, vous m'avez compris.
Bien sûr, mais c'est sa façon de le gérer, de gérer cette crise, cette pandémie, qui est significative, évidemment, de ce qu'il est et de son mépris profond, du mépris profond du gouvernement en premier lieu et puis de la classe riche, hein, envers tous ceux qui doivent aller gagner leur vie et qui vont se faire exploiter à l'usine ou ailleurs.
Alors tout ça explique pourquoi le niveau en maths a baissé, quoi. Bien, vous avez fait un grand virage quand même.
Oh, hein. Mais bon, disons qu'il y a des liens entre tout ça.
Il y a des liens entre tout ça.
Il y a des liens dans la dégradation de la situation, de la société et le niveau des jeunes. Après, ça dépend quel niveau. Je trouve que c'est quelque chose qui est compliqué à juger parce que les jeunes aujourd'hui, ils savent faire des choses, par exemple, dans certains domaines, se débrouiller avec un téléphone portable. Ouais. Ils ont un niveau de connaissance et de gestion de certains outils parfois que ma génération n'a pas. Hein, donc ça dépend de quoi on parle.
Alors on va parler de vous. Donc vous avez commencé à exercer à Poitiers.
Oui, dans l'académie de Poitiers.
Donc vous êtes presque originaire en fait, donc en 1991.
C'est ça, oui, j'ai commencé à enseigner en 91. Ouais.
Et après vous avez été à Amboise.
Quand je suis arrivée...
là vous avez enseigné la SVT.
Un peu. Je me suis installée à Amboise et j'ai travaillé d'abord un peu au collège Lamartine, ici. J'ai fait des remplacements, j'étais pas titulaire d'un poste, donc j'ai fait des remplacements dans l'éducation nationale quand j'ai commencé, dans l'académie de Poitiers d'abord, ici ensuite. Et puis ensuite, très vite, je me suis trouvée sans emploi parce que l'académie, c'est quand même Orléans, c'est pas Tours, c'était pas très facile de remonter sur la pile pour avoir du boulot fréquemment, donc je suis allée voir à la NPE à l'époque, ça s'appelait NPE et pas Pôle emploi. Et j'ai trouvé un emploi de formatrice, enseignante en mathématiques, en réalité, dans un centre de formation pour adultes, où je suis restée un certain nombre d'années.
C'est plus facile ou plus difficile d'enseigner à des adultes? Enfin, c'est très différent.
C'est assez différent, mais c'est riche d'échanges. Il y a plus d'échanges parce qu'on est, quand même, bien plus à égalité avec les gens que quand on enseigne à des jeunes qui nous voient. Il y a un fossé avec les petits élèves ou les jeunes qui n'existent pas avec des adultes ou beaucoup moins.
Vous arrivez à avoir de l'autorité ? Je dis ça parce que politiquement communiste, on n'aime pas l'autorité, non ?
Ça dépend si c'est une autorité méritée. Je ne suis pas anti-autoritaire.
Vous n'êtes pas anti-autoritaire ?
Ça dépend de quelle autorité.
Alors vous êtes militante depuis 1986 ? Oui. Date des manifestations sur la loi contre la loi Devaquet.
C'est ça.
Alors, qui prévoyait quoi, la loi Devaquet? C'était l'autonomie des universités,
la sélection. C'était le début de tout ça et de l'entrée des intérêts des entreprises privées dans les universités, dans leurs options, dans la recherche, etc. Ça, c'est ce mouvement-là qui avait développé, ce projet de loi et ce ministre qui le portait avait développé une très forte opposition à l'époque. Ça a fait un mouvement très puissant. On disait même à l'époque le premier grand mouvement aussi massif depuis 1968.
Oui.
Hein. Donc effectivement, le ministre a dû démissionner à l'issue de ce mouvement. Et puis là, il y a eu une reculade du gouvernement sur ce projet de loi. Mais évidemment, dans les années qui ont suivi, ils ont su faire passer toutes ces mesures qui étaient prévues dans le projet de loi Devaquet par la petite porte.
C'est assez cruel parce que Devaquet lui-même a tout essayé pour justement lutter dans votre, enfin si j'ose dire, dans votre sens, en tout cas dans le sens inverse de celui qui lui était imposé. Il a tout fait pour essayer de vous donner presque satisfaction et c'est lui qui a payé. Quoi.
Pas grave, ils sont là pour ça les ministres, ils sont là pour être des fusibles dans cette société, là, derrière le gouvernement et ses ministres.
C'était l'homme le plus détesté de France alors qu'il ne le méritait pas forcément.
Je ne sais pas si les gens qui sont visés bien souvent dans le monde politique méritent la détestation qui peuvent susciter, parce que c'est ce qu'ils représentent en réalité, qu'on déteste la plupart du temps. Ils sont prêts à endosser ce rôle, donc à la limite, tant pis pour eux, hein, qu'ils endossent l'impopularité de mesures qui vont dans le mauvais sens, ou qui sont jugées comme telles. En
tout cas. Mais est-ce qu'il y a un truc qui a été fait par les politiques depuis 40 ans qui trouve grâce à vos yeux ?
Les politiques, c'est qui les politiques d'abord ? Les gens qui se succèdent au gouvernement, oui. La gauche, la droite, ils viennent aux affaires pour gérer les intérêts d'une classe qui dirige en fait à travers eux et qui n'a pas toujours besoin d'eux non plus pour diriger dans la façon dont ils dirigent leurs entreprises, etc. Cette classe riche, c'est elle qui dirige en réalité tous ces hommes politiques et qui leur amène à faire des choix contre une majorité l'intérêt de la majorité de la société.
Moi, donc globalement, les politiques sont des pantins.
Oui, ouais, je pense. Ouais.
Bon, on aurait pu dire ça de Napoléon, que c'était un pantin des financiers de son époque.
Ouais, enfin après.
Mais qui manipule qui à un moment.
C'est pas que des pantins, c'est aussi des gens qui sont prêts à jouer le rôle, à jouer un rôle dans la société. Et parfois, certains le jouent mieux que d'autres, dans la mesure où ils ont plus de conviction, plus de capacité et plus de, comment dire, d'envergure politique. Napoléon, il avait une envergure politique. De Gaulle avait une envergure politique. On peut pas leur, c'est pas uniquement des pantins. Mais ils assument un rôle qui est celui de représenter les intérêts d'une minorité de la population.
De Gaulle était là pour représenter les intérêts d'une minorité de...
Ah ben ça c'est sûr, la classe capitaliste, ce qu'on appelait à une époque les 200 familles, ça c'était avant la guerre de 40, je crois, le Parti communiste utilisait beaucoup cette formulation-là. Mais ça c'est une réalité qui date d'il y a des décennies et des décennies, et De Gaulle n'a jamais représenté que les intérêts de cette classe riche et de possédants, des possédants, la grande bourgeoisie.
Vous parlez du De Gaulle de 58 ou celui de 40 ?
Les deux.
Même en 40,
ouais,
De Gaulle
ouais, je
représente
pense, bien
les
sûr,
riches ?
Bien sûr, même en 40, parce que en fait il a été sûrement malin. Malin, il avait une certaine vision des choses, mais c'était une vision au service d'un appareil d'État. Pour la remise en place d'un appareil d'État, il savait que le vent allait tourner un moment ou un autre. Et il a préparé le terrain dès 40 pour un aboutissement qu'on a pu voir à partir du virage de 43, mais surtout à partir de 44-45, la prise en main de l'État... par les gaullistes, avec le Parti communiste comme allié, hein, je le rappelle, ça a été pour remettre en selle, finalement, toute une bourgeoisie.
Le Parti communiste, à partir de 1942, parce qu'avant, il collaborait avec les Allemands.
Hein. Oui, enfin bon, il collaborait avec les Allemands. Allez dire ça aux militants communistes, collaborer avec les Allemands, le Parti communiste.
Bah, clairement, oui.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
Hein. Bah, c'est une
Ils se sont battus.
Hein. Avéré et qui ne fait pas débat aujourd'hui. Hein, c'est...
Enfin bon, je sais pas ce que vous appelez collaborer avec les Allemands, ce que vous sous-entendez là-dessus. C'est le pacte germano-soviétique dont vous parlez. Mais les militants communistes dans ce pays, à aucun moment, ne se sont sentis du côté des nazis. Au contraire, ils ont toujours combattu fermement les nazis. Ils ont toujours été complètement hostiles à leurs idées. Et ils y ont laissé leur peau, bien souvent, dans ces combats-là. Et c'est pas seulement à partir de 42. Ils ont été interdits par le gouvernement au moment de l'entrée en guerre, parce qu'il y avait eu un pacte, le pacte Staline-Ribbentrop. D'accord, mais le Parti communiste et les militants, ils n'en étaient pas responsables.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, on ne peut pas vous accuser de stalinisme, puisque justement, lutte ouvrière s'est construite contre le stalinisme, et contre Mao, contre ces grands dictateurs assassins qui se sont targués d'un drapeau rouge pour avoir l'air communiste, mais qui n'étaient que des dictateurs sanglants.
Et avant, Avant ça, je dirais même avant Lutte ouvrière, parce que Lutte ouvrière est née en 68,
oui.
D'un mouvement qui s'appelait auparavant Voix ouvrière, qui était plus bien petit numériquement, mais ils ont repris l'héritage. Les fondateurs de Lutte ouvrière ont repris l'héritage du mouvement trotskiste qui existait avant-guerre et qui, à partir de 1923, aux côtés de Trotsky et de toute une opposition bolchevique en URSS, ont combattu le stalinisme et ont fini dans les geôles de Staline, dans les camps, etc. Et c'était toute cette génération de révolutionnaires qui avaient voulu rester fidèles à leurs idées, à celles de la révolution
russe. Alors justement, ça c'est un truc qui m'intéresse... où j'ai jamais trouvé vraiment de réponse. Enfin bon, je profite de vous avoir sous la main pour apprendre encore quelque chose. Mais le trotskisme, c'est quoi? À part la référence à Léon Trotsky, mais à part être contre les goulags de Staline et de Lénine avant, aujourd'hui, ou même au cours de l'histoire récente, être trotskiste, politiquement, c'est quoi?
C'est conserver la perspective de renverser cette société capitaliste et du communisme. Je pense qu'on est les seuls aujourd'hui à se battre encore dans la perspective, les seuls au niveau d'une force organisée, hein, je veux dire, bien sûr, à défendre les idées qui ont été dans des générations antérieures, celles de Marx, celles de Lénine. Et en fait, Trotsky a été le continuateur de ces idées-là contre Staline, qui en était le fossoyeur. Et nous, des décennies plus tard, on est les héritiers de ces mouvements révolutionnaires, en fait, et de ces générations de militants révolutionnaires qui se sont battus contre un monde d'exploitation de l'homme par l'homme.
Et ça, tout communiste de pouvoir le dire. Donc, qu'est-ce qui fait la spécificité du trotskisme dans
l'intérieur de ça ? Parce que, par exemple, prenons le Parti communiste français. Le Parti communiste français, c'est un parti qui s'est complètement intégré au système capitaliste, ça depuis des décennies, et qui d'ailleurs se satisfait d'avoir des ministres aux côtés d'un gouvernement, que ce soit en 44 ou en 81 avec Mitterrand, ou depuis avec Jospin. Aujourd'hui, le Parti communiste n'est plus révolutionnaire, et ça depuis longtemps. Et nous, on est ceux qui continuons cette perspective-là, de combattre le capitalisme pour le renverser et pas simplement pour y envoyer des ministres qui prétendent y faire du social ou tirer ce système vers la gauche, ce qui est tout à fait impossible.
Alors ça, on va y revenir justement. La différence avec le NPA, c'est quoi?
Alors, eh bien, déjà, le NPA n'est pas un parti qui se réfère au communisme et au trotskisme, même s'il y a des militants trotskistes parmi les militants du NPA. Le NPA est un parti qui se dit anticapitaliste.
Oui, c'est son nom.
Et voilà, exactement, comme son nom l'indique. Et je pense que parmi ses dirigeants, ses militants, il y a beaucoup de gens pour qui la révolution russe et même la perspective révolutionnaire, c'est pas ce dont ils se revendiquent. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que on ne combattra pas le capitalisme si on ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à une révolution, c'est-à-dire jusqu'à la prise du pouvoir par le monde du travail, le contrôle de la vie économique, mais aussi la prise du pouvoir par le monde du travail.
Mais j'ai pas compris les différences avec le NPA qui a repris la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire.
Ben oui, mais ils ont fait le choix d'en abandonner le nom
d'accord.
Et communiste et révolutionnaire, c'est sûrement pas par hasard.
Oui, mais anticapitaliste, ça vous va bien, ça?
Mais ça suffit pas.
Mais ça suffit
pas. Il suffit pas d'être anticapitaliste.
La LCR qui était dirigée par Alain Krivine, qui vient de nous quitter.
Exactement, et à regret, hein, c'était effectivement un militant de grande valeur, je pense.
Et donc, à part le nom, qu'est-ce qui vous différencie du NPA? Je n'ai pas suivi.
Ben, parce que, d'abord, on ne milite pas dans les mêmes milieux, je pense, pas tout à fait, en tout cas, mais surtout, nous, on tient à lever le drapeau du communisme très haut. Et ils ont abandonné ce drapeau-là. Et moi, je pense que, franchement, s'il y a quelques...
Pourquoi ils l'ont abandonné?
Ah ben faudra leur demander.
Non mais enfin, comment ils l'ont abandonné, à votre avis?
Ben ils ont choisi de l'abandonner. Peut-être regarder dans leur direction. Ben, c'est pas à moi de justifier pourquoi ils ont abandonné un drapeau pour lequel moi je me bats et que je pense absolument très très important pour l'avenir de l'humanité. Il faut savoir dans quelle direction on regarde. Il suffit pas de dire ce système ne nous convient pas. Il y en a d'autres qui le disent, hein, qui sont, enfin même les gilets jaunes. Enfin, ils ont dit beaucoup, surtout que Macron ne leur convenait pas, mais peut-être beaucoup parmi eux disaient aussi que ce système ne leur convenait pas ou ne leur convient pas. Mais ça suffit pas. Il faut tracer une direction. Et moi, je pense que la direction qui reste la seule qui offrira à l'humanité. Hein, là, je parle pas seulement à une catégorie de la population et pas non plus à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle de l'humanité tout entière. Une nouvelle perspective, ça restera le communisme, parce que les échecs du XXe siècle, l'échec de, principalement de la révolution russe, qui a dégénéré vers la dictature stalinienne qu'on sait, cet échec-là, c'est un échec à un moment donné de l'histoire, dans un contexte particulier, mais moi je pense que le communisme garde toute sa valeur.
Ex-LCR-NPA, donc, ne trouve pas grâce à vos yeux, le Parti communiste non plus.
Enfin, ne trouve pas grâce, je sais pas, on a des relations fraternelles avec les camarades du NPA, avec certains du Parti communiste aussi.
Bien sûr. Alors la France insoumise, j'en parle pas là.
Bah, la France insoumise, pour moi, c'est plutôt un appareil pour tirer Mélenchon vers la présidentielle. Alors là, effectivement, c'est tout autre chose. Il n'y a pas de lien avec la classe ouvrière. Là avec la France insoumise, on n'a pas un parti qui a une histoire liée à la classe ouvrière, ni rien. On a un appareil qui s'est construit pour pousser Mélenchon vers la présidence. C'est tout autre chose.
Vous avez des copains de droite ?
Je cherche. Probablement, sans le savoir. Non, des copains, non. Des contacts, des relations, peut-être. Mais des amis, non, sûrement pas.
Non, sûrement pas. À cause de ça ? Est-ce que vous pourriez vous faire tuer pour quelqu'un de droite ?
Est-ce que je pourrais me faire tuer par quelqu'un de droite ?
Non, pour quelqu'un de droite.
Pour quelqu'un de droite ?
Pour sauver quelqu'un de droite. C'est une question absurde.
J'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Le problème, c'est pas seulement les idées.
C'était une question absurde.
S'il faut, je ne sais pas, sauter à l'eau pour quelqu'un qui est en train de se noyer, je ne lui demanderai pas forcément ses idées, c'est sûr.
Voilà, ça, c'est la bonne réponse. Très bien. Je reviens à un sujet plus fondamental, la révolution. Alors, qu'est-ce que c'est que la révolution ? Déjà, l'ouvrier n'est pas le même qu'en 1968. Le monde a tellement changé. Un ouvrier en 1968 dans une usine, c'est plus un ouvrier aujourd'hui en 2022. D'abord, il n'y a plus beaucoup d'ouvriers dans les usines, il y a surtout des robots. Les emplois sont créés, les métiers se sont créés. Le monde est quand même très différent, même si la lutte est peut-être exactement la même. Mais la révolution, concrètement, comment ça se passe ?
Alors d'abord, il y a pas mal de choses dans ce que vous venez de dire. Dans les usines, il y a encore beaucoup d'ouvriers. Allez demander aux gens de SKF qui, dans certains secteurs, travaillent à soulever jusqu'à 7 tonnes de métal dans une seule journée. Je pense qu'ils préféreraient qu'il y ait un robot qui fasse ce boulot-là à leur place parce qu'ils se retrouvent très très vite avec des troubles musculo-squelettiques et une usure prématurée. Et les robots, dans notre société, ils sont très loin d'avoir remplacé les hommes au travail, ou peut-être ils sont dans des endroits où on n'en aurait pas besoin. Je suis pour une société où la robotisation, elle soulagera réellement le travailleur et des tâches qui usent et qui sont inintéressantes. Mais justement, l'exploitation capitaliste, c'est pas ça. C'est pas de remplacer tous les travailleurs par des robots. C'est de les remplacer par des robots uniquement là où le patron il trouve ça rentable. Mais parfois, la main-d'œuvre qu'on peut user à merci, surtout quand il y a beaucoup de précarité comme actuellement avec l'intérim généralisé dans la production industrielle, etc. Ça peut coûter moins cher au patron que de moderniser pour soulager le travail.
De temps en temps, vous parlez de patron, de temps en temps de grands patrons. Est-ce qu'il y a une frontière ?
Il y a des petits patrons. Il y a des petits patrons qui n'ont pas forcément... des gens qui se croient patrons et qui se croient parce qu'ils ont cette étiquette-là du côté des très gros. Et pour moi, ils n'ont pas le même intérêt. Les mêmes intérêts dans la société. Il y a des petits patrons qui feraient mieux de regarder du côté du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière et de ses luttes, et de s'en sentir plutôt solidaire.
Alors vous m'avez pas répondu. Comment ça se passe, la révolution ?
Ah bah oui, mais vous m'avez posé une autre question.
C'est vrai. Donc, Bien joué. Mais je reviens. Comment ça se passe, la révolution ?
Eh bien, la révolution, c'est un mouvement de masse, déjà, un mouvement de masse, une effervescence profonde dans des couches diverses de la société, qui ébranle non seulement le monde ouvrier, mais d'autres catégories de la population. Plus personne ne supporte cette société injuste et ses injustices.
Moi, on me dit ça depuis que j'ai 3 ans et je vois rien de plus. Quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Est-ce que c'est un mouvement de gilets jaunes qui va être 10 fois plus fort ?
Je ne suis pas Madame Soleil. Ce qu'on sait, c'est comment se sont passées des révolutions passées. Si on peut regarder du côté de la Révolution française, de la Révolution russe.
1789, c'est initié par les nobles et par les riches.
Ils en ont pris la tête, ils en ont pris la direction.
Vous avez raison, c'est les Anglais qui ont commencé.
Non, je ne parle pas des Anglais. Je parle de la Révolution française là, et des paysans qui se sont soulevés. Je pense que les paysans qui sont allés...
Les paysans sont jamais soulevés en 89. Et puis la révolution de 89, elle a commencé à être financée par les Anglais, bien sûr.
Mais moi, je vois le mouvement de masse quand même. Vous oubliez une chose, c'est que dans tout ça, il y a quand même un mouvement de masse. La révolution, elle ne se fait qu'avec des millions d'hommes qui se soulèvent contre un ordre établi. Ensuite, il se pose un problème, c'est quelle direction ils se trouvent, quelle direction ce mouvement se trouve, qui mettent-ils à leur tête ? Et effectivement, si on parle de 1789, c'est une petite bourgeoisie qui s'est retrouvée à la tête des masses qui sont allées avec leur fourche et leurs moyens du bord brûler les châteaux des seigneurs féodaux, etc.
Ça existe.
Je vous conseille un très très bon auteur de l'époque, justement proche de la Révolution française, qui s'appelle Erckmann Chatrian, ces deux auteurs d'ailleurs, qui ont écrit des romans très vivants sur cette période qu'ils ont connue eux-mêmes, Histoire d'un paysan par exemple d'Erckmann Chatrian. Vous verrez que c'était une ébullition profonde dans la société qui ne touchait pas qu'une petite bourgeoisie.
Moi, je vois que ça a été fait par trois bourgeois.
Mais revenons à la révolution russe, parce que la révolution russe, elle est plus proche de nous, d'une part. Et surtout, c'est une révolution ouvrière, la révolution russe.
Est-ce que c'est pas un truc plutôt télécommandé par les Allemands pour gagner un front sur les 14-18 ?
Ah oui, bien sûr, tous les détracteurs de Lénine ont dit ça. Les bolcheviks sont revenus en Russie, transportés dans un wagon plombé.
Bien sûr, il y a un interobjectif.
Mais les calculs des uns et des autres, c'est une chose. Mais évidemment que la révolution... Vous croyez que des millions de gens se font manipuler par cette manipulation, je n'y crois pas, d'une part. Et je pense qu'il y a, quand il y a des raisons profondes à une révolution, le problème qui se pose, c'est quelle direction les révolutionnaires et les masses révolutionnaires se trouvent. Et que cette direction-là, par exemple à l'époque de la révolution russe en 1917, eh bien, elle a été dans un premier temps... elle a été représentée par des partis qui étaient tout à fait bourgeois, effectivement, au début de la révolution russe, quand ils ont fait tomber la monarchie du tsar, on s'est mis en place un gouvernement très bourgeois, qui d'ailleurs a continué à participer à la guerre mondiale, à envoyer le paysan et l'ouvrier russe sur le front pour les intérêts... des petits possédants français et de leur et de tous ceux qui avaient investi des capitaux dans la Russie semi-coloniale d'avant la Révolution, par exemple. Justement, peu à peu, au fil des semaines et des mois qui se sont écoulés dans cette année 1917, les travailleurs, à travers leurs actions révolutionnaires, ils ont compris de plus en plus de choses. Et ils ont fait évoluer, leur point de vue a évolué et leur direction a changé. Et c'est comme ça qu'on arrive, plusieurs mois plus tard, après des événements qui n'ont pas cessé pendant des mois de révolution entre février 17 et octobre 17, on en est arrivé à la prise du pouvoir par un parti bien plus radical et surtout qui représentait les intérêts de la classe ouvrière, qui était le parti bolchevique. Et donc, une révolution, c'est ça, c'est une ébullition qui peut commencer d'une certaine façon, mais aussi aller bien plus loin.
Jusqu'où ?
Eh bien, jusqu'au renversement du capitalisme, c'est ce qu'il faudra. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui.
Mais donc, par exemple, pour l'ensemble des sociétés, des échanges, des flux internationaux, du petit commerce, de tout ce que vous voulez, demain je me réveille, vous avez gagné, vous avez fait la révolution, j'ouvre ma fenêtre, qu'est-ce que je vois ?
Des assemblées générales, de travailleurs qui débattent, qui organisent la vie sociale collective, qui votent et qui décident collectivement de leur avenir. Et contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où notre avenir il est décidé par une collectivité réduite à quelques petits conseils d'administration de gens extrêmement riches.
Mais plus encore, sur l'initiative par exemple, sur le brevet, tout ça n'existe plus.
Ah mais alors le brevet, alors là, parlons-en des brevets. Parlons-en parce que je crois que la période qu'on vient de vivre avec la pandémie, elle a démontré à quel point... Dans cette société, cette logique de la propriété privée, même de la propriété privée de la connaissance, justement, elle est contradictoire avec l'intérêt de toute la société. Parce que dans le domaine médical, ça semble évident. Enfin, en tout cas, ça, j'espère, sauter aux yeux de pas mal de monde à l'occasion des mois de pandémie qu'on vient de vivre. Mais la connaissance, les meilleures connaissances scientifiques, elles ne devraient appartenir à aucune entreprise, aucun propriétaire qui cherche à se faire du profit dessus pour produire et vendre à lui seul son produit au prix qu'il décide, etc. Dans l'opacité la plus complète, d'ailleurs, dans le, hein, dans le contexte actuel. Ça devrait être un bien public, un bien collectif, et on ne devrait pas mettre en concurrence, en plus, des chercheurs qui cherchent dans le même sens et qui pourraient chercher ensemble et trouver ensemble le meilleur remède, plutôt que de mettre chacun sur le marché des variantes de la même chose en n'ayant pas collaboré. On perd du temps, on perd de l'énergie, et aujourd'hui, une partie de l'humanité ne peut pas bénéficier de ce que la science a produit de meilleur parce que ça coûte un tel prix que des milliards d'êtres humains ne pourront jamais y avoir accès. Et ça, c'est un scandale. Moi, je trouve que c'est un scandale du capitalisme que la période Covid a montré d'une façon flagrante à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont compris des choses.
Si justement on prend un peu de recul et qu'on s'abstrait un tout petit peu de la période Covid, pour revenir justement sur ces questions de brevets, d'inventivité, de création, je ne sais pas, moi, sur n'importe quel domaine, dans l'informatique, parce que c'est un pantosan facile, mais comment se fait l'innovation ? Puisque tout est en assemblée générale, pourquoi je me ferais suer à faire des trucs ?
Mais,
pour le bien commun ?
Oui, mais puis aussi parce que moi j'ai confiance dans l'humanité. Je pense que les êtres humains, ils sont bridés dans la société actuelle. Mmh. Beaucoup de gens pourraient déployer une inventivité, une créativité bien supérieure à ce qu'ils peuvent faire, parce qu'il faut qu'ils aillent se faire exploiter pour gagner leur salaire tous les mois, et que c'est usant, que c'est pas des conditions vivables, normales. Aller travailler, je sais pas, de nuit, parce que ça te permet d'avoir une prime et de mettre un peu de beurre dans les épinards par rapport à travailler de jour. Et puis parce que de toute façon, les patrons, ils veulent tellement rentabiliser leurs machines vite qu'il faut que ça tourne nuit et jour non-stop, et on contraint les humains à les bosser à l'encontre de ce qui est naturel, c'est-à-dire d'aller passer des nuits au travail, hein, pendant parfois des années ou des décennies. Et puis après ça, les gens sont usés. L'exploitation dans cette société, ça n'existe pas que dans les pays pauvres et là où il y a des enfants qui vont au travail à l'âge de 8 ans. Hein. L'exploitation, c'est ici, chez nous, dans les centres d'appels téléphoniques. Tout à l'heure, on parlait de la classe ouvrière. Mais la classe ouvrière, c'est pas que Charlie Chaplin et les chaînes automatisées. C'est aussi les centres d'appels téléphoniques. C'est aussi les aides-soignantes et les infirmières dans les hôpitaux, parce que, ou dans les EHPAD, par exemple, hein, où il faut que ça rapporte à des actionnaires, patrons des groupes Orpea et autres, hein, dont on a entendu parler assez récemment. Et la classe ouvrière, elle est là aussi. Elle est peut-être plus féminine dans certains secteurs que dans d'autres, mais c'est aussi la classe ouvrière, tout autant que celle qui va produire des roulements à billes sur une machine.
Est-ce qu'il y a des exemples dans le monde où une révolution a existé ?
Bah, des révolutions, il y en a. Des luttes des travailleurs et des opprimés, il y en a. Et des gens qui sacrifient leur vie pour un combat, pour la liberté, par exemple, ou pour... Ça, on en voit partout, et les décennies passées là en ont été riches, par exemple même après la guerre de 40 dans les pays qui avaient été colonisés. Par contre, des révolutions sociales qui soient susceptibles qui aient abouti, ça, moi je pense que la plus aboutie qu'on ait eue dans l'histoire, c'est la révolution russe. C'est la seule qui ait permis aux travailleurs de s'emparer du pouvoir et de durer un peu plus que les deux mois de la Commune de Paris de 1871. En tout cas, porter une classe ouvrière au pouvoir qui, avec l'aide d'une paysannerie pauvre, dans un pays immensément grand et paysan, rural, a quand même combattu, même pendant les trois ans de la guerre civile, contre tout un tas de forces politiques bien supérieures, militaires bien supérieures en tout cas, mais qui a quand même vaincu et a réussi à maintenir un régime issu de la volonté révolutionnaire qui s'était exprimée dans l'année 17, qui s'est poursuivie dans les années qui ont suivi.
Qu'est-ce qui a merdé,
quelques années. Tout le contexte. D'abord, cette situation dans laquelle ils se sont trouvés à l'issue de la guerre civile, l'appauvrissement, puis de la guerre civile qui a succédé à une guerre, à la guerre mondiale, qui avait déjà beaucoup appauvri la Russie. Ce qu'était la Russie, hein. Lénine, il disait que... la Russie, c'était le maillon faible en Europe, c'est-à-dire que c'était sûrement le pays où la révolution était le plus facile à faire, mais où l'aboutissement était le plus difficile à obtenir, c'est-à-dire la réalisation du socialisme puis du communisme serait le plus difficile, parce que c'était un pays pauvre, c'était un pays peu développé, à part dans quelques grandes villes de la partie ouest européenne de la Russie. Il y avait un océan de misère, il y avait, enfin les conditions dans lesquelles c'était pas très assez peu industrialisé, donc oui. Il fallait que cette révolution elle puisse vaincre et s'étendre dans des régions plus développées comme l'Allemagne, la Hongrie, qui ont connu des révolutions qui ont été assez vite écrasées ou voilà, en Allemagne, ils ont quand même assassiné Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht en janvier 1919 pour couper la tête à la révolution qui était en train de se développer, parce qu'effectivement, ils risquaient en Allemagne d'avoir une révolution comme en Russie. Et là, ça aurait renforcé beaucoup cette révolution russe avec un pays qui avait beaucoup plus de moyens, qui était beaucoup plus industriel, qui était...
Est-ce que vous préférez un monde où il y ait beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres, mais où tout le monde mange à sa faim et tout le monde soit libre et tout le monde soit à peu près heureux, ou vous préférez un monde révolutionnaire où tout le monde soit égal?
Alors, où est-ce que vous avez vu un monde où tout le monde mange à sa faim?
C'est un monde théorique, c'est une question théorique.
Ah ouais, non mais le problème c'est que ça n'existe pas.
Le monde
capitaliste. Ah oui, mais moi je me bats pour qu'il existe.
Bah, l'autre, il existe.
Et je pense. Ah bon, l'autre, un monde où tout le monde mange à sa faim et où les gens ils crèvent pas de misère,
de
maladies
française.
Qu'on peut.
Si on prend par exemple une société occidentale ou une société occidentale en général, si vous voulez.
Mais
pour
c'est
faire
quoi
simple.
La société occidentale? Quelle société occidentale?
Mettons la société française. Oui. Bon, il y a des gens qui sont pauvres, d'autres qui sont riches. Est-ce qu'il vaut mieux une société inégalitaire comme ça ou une société où tout le monde soit moyen?
Excusez-moi, mais il y a combien de gens qui ont besoin des Restos du Cœur pour survivre? Il ne faut pas oublier que la France, ce n'est pas un isolat non plus. Déjà, dans ce pays, il y a tellement de problèmes. Je veux dire, on est dans un pays qui vit une crise depuis 40 ans, où les travailleurs s'enfoncent de plus en plus dans le chômage, ou en plus grand nombre, en tout cas, dans la précarité. Et ça, c'est un aspect des choses. Et je pense que pour dire que tout le monde est heureux en France parce qu'on mange tous à la faim, enfin, je ne sais pas, mais... Le 21e siècle, s'il faut en attendre seulement de manger à sa faim, je trouve que c'est vraiment insuffisant, parce que on devrait aussi pouvoir se soigner, on devrait aussi pouvoir avoir accès à des loisirs, on devrait profiter de la vie normalement et dignement sans avoir besoin d'aller mendier la charité à une association. Et puis il y a beaucoup de gens qui vivent avec 400-500 euros par mois, et franchement on meurt peu, pas de famine en France, d'accord, mais enfin bon, moi j'en vois des gens qui n'ont même pas 60 ans et qui n'ont plus de dents et qui ne peuvent même pas se les faire refaire. Hein.
Oui.
On en voit. Donc non, ce n'est pas du tout la société à laquelle j'aspire. Même si avec la société française telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'une révolution, il faut la faire.
Mais vous avez raison, alors je pourrais poser ma question un peu différemment en fait. Est-ce qu'il faut attendre une révolution pour que tout soit parfait ou accepter de transiger?
Eh bien moi, je ne pense pas qu'il faille attendre une révolution. Il faut se battre, et c'est mon combat.
Donc vous transigez
pour...
Non, parce que ça fait 40 ans que j'entends ça et il ne se passe rien.
Ça fait plus longtemps qu'il se passe... Enfin, d'abord, il ne se passe pas rien.
Vous avez raison,
il ne se passe pas rien. Il se passe que, d'une part, il y a eu un certain nombre de partis politiques qui ont trompé les travailleurs, qui se sont évertués à leur faire croire qu'il fallait bien voter pour changer leur avenir, pour changer leur sort. Quand un certain nombre de ces partis, comme le Parti Socialiste ou le Parti Communiste, sont issus du mouvement ouvrier, du mouvement et du marxisme, du socialisme du 19e siècle, je dirais, eh bien, on peut dire qu'ils ont complètement trahi, et ça depuis longtemps, les perspectives pour lesquelles ils avaient été construits, ces partis-là, à l'origine. Ça a entraîné de faux espoirs, ça a mis les travailleurs sur des rails qui n'étaient pas les bons, vers des impasses, et des impasses, on peut en connaître beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut un parti révolutionnaire, et il faut construire une force militante avec ceux qui ont conscience qu'il y a beaucoup de courants politiques qui nous emmèneront vers des impasses, qui nous feront des belles promesses, et qui nous emmèneront vers des impasses qui ne changeront rien. C'est sûr qu'en politique, même pour que des mouvements, des combats réussissent, moi je pense qu'il y a besoin de militants révolutionnaires et de gens qui pensent qu'on n'a rien de bon à sauver dans l'organisation actuelle de la société, et qu'il faut être prêt à aller jusqu'au bout des combats.
Alors pourquoi ça avance pas?
Actuellement, On n'est pas dans une situation révolutionnaire, et des situations révolutionnaires, il n'y en a pas tous les jours. Hein. Il y en a dans l'histoire de, comment dire, d'une société, des situations révolutionnaires, elles surgissent à certains moments, et il faut aussi que dans ces situations-là, ceux qui se révoltent et se trouvent leur propre outil, et soient capables de construire leur propre outil.
C'est-à-dire
Justement, ce parti qui manque aujourd'hui et qu'on essaie de construire.
Et pourquoi ça marche pas?
Enfin, pourquoi ça marche pas?
On tourne en rond parce que on se voit aussi parce que va y avoir les présidentielles.
Oui, tout à fait.
Très bientôt. Oui. Vous soutenez une candidate qui s'appelle Nathalie Arthaud.
Exact.
Qui était candidate il y a 5 ans.
Oui.
Dans les sondages, si tant est que les sondages aient une importance, mais bon, visiblement ils en ont. Et depuis Arlette Laguiller, en gros c'est marrant d'ailleurs parce que depuis 1974, vous n'avez eu que deux candidates.
C'est bien, non?
Bah, je sais pas,
c'est bien parce qu'elles se sont fait connaître.
On se bagarre pas au portillon pour être candidat chez vous. Enfin, c'est
non,
pas grave. Hein,
non, c'est nous. Il n'y a pas d'ambition de carrière.
Comment ils sont désignés,
et en plus, c'est même pas une carrière d'être candidate à lutte ouvrière.
Oui, j'imagine. Oui.
C'est plutôt
un
effort militant, en tout cas.
On
est fiers d'avoir des camarades qui, comme Arlette Laguiller, qui pendant de longues années nous a représentés de la meilleure façon qu'on pouvait le souhaiter.
Enfin, elle a été députée européenne une fois. Je crois.
Oui, tout à fait. Ouais.
Mais à part ça, à chaque fois, c'est 1%.
Ce qui vous pose un problème, c'est que on est un courant qui persiste, un courant qui défend des idées contre cette société et qui, malgré ses petits scores aux élections, persiste et signe. Je sais que ça dérange beaucoup les journalistes et qu'ils n'arrivent pas,
à
comprendre ça. Peut-être, mais en tout cas, c'est une question qu'on pose souvent
aussi, à
Nathalie Arthaud. On l'a posée à Arlette Laguiller avant.
Et on vous la reposera.
Bien sûr. Mais parce que justement, on est un courant révolutionnaire. C'est-à-dire que on veut préparer des situations révolutionnaires. On pense que il faut un parti pour ça. Et ce parti, d'abord, nous, on n'est même pas ce parti-là parce qu'on est bien trop petit et trop faible pour être un parti tel qu'on souhaiterait le devenir.
Enfin, dès que vous avez un voisin qui pense pratiquement comme vous, vous vous engueulez avec lui.
Je peux finir. Je peux finir tranquillement. Hein, vous êtes énervé, on dirait.
Oui, ça m'a un peu énervé. Allez-y.
J'ai pas de problème avec mes voisins, moi.
Bah si, avec LCR, avec... enfin.
Mais non, mais je trouve que c'est ça la démocratie. C'est quoi? Vous êtes pour la.
L'union
tout
est un
monde,
combat.
Tout le monde prétend être pour la démocratie. Mais la démocratie, c'est d'être capable de s'organiser en fonction de ses idées, de s'exprimer différemment en fonction de ses idées, de ses nuances. Et nous, on trouve très bien qu'il y ait un courant, qu'il soit le NPA, qu'il y ait des nuances avec nous, d'autres, etc. Et que chacun s'exprime, chacun ait sa presse, etc. C'est quoi ce monde où on voudrait, où certains voudraient que tout soit uniforme, que tout le monde soit derrière le même candidat, etc. C'est pas du tout notre vision des choses. Nous, on est pour que les travailleurs apprennent, les travailleurs, tous ceux qui s'intéressent à la politique, tous ceux qui ont envie de changer les choses, ils regardent, ils aillent chercher, ils lisent les programmes, ils apprennent à connaître les gens, et puis qu'on... Les nuances, c'est des choses qui sont importantes parce que ça sera porteur demain, peut-être, de clivages bien plus importants que ce qui nous distingue aujourd'hui. J'en sais rien. Avant la révolution russe, il y avait un seul parti socialiste, ouvrier, socialiste,
après aussi,
révolutionnaire à l'époque de... je peux finir mon raisonnement ? À l'époque de Lénine. Et puis, à un moment donné, c'était en 1903, dans ce parti, il y a eu une scission importante entre deux courants, les mencheviks et les bolcheviks, les majoritaires et les minoritaires. Mais derrière ces dénominations-là, en fait, il y avait simplement une conception différente de la face du parti qui voulait. Qu'est-ce qu'on veut construire comme parti? À quoi on se prépare? Bon, voilà. À l'époque, ça semblait être que ça, les divergences. Eh ben, au moment de la révolution, 15 ans, pas loin de 15 ans plus tard, cette divergence qui s'était faite à l'origine sur comment on construit le parti, qu'est-ce qu'on fait comme parti, qu'est-ce qu'on veut construire avec qui, ça s'est traduit par le fait que les bolcheviks, ils ont été capables de mener cette révolution russe jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la prise de pouvoir par la classe ouvrière, alors que les mencheviks, ils ont accompagné le gouvernement bourgeois et ils n'ont, en fait, ils se sont satisfaits de cette première phase de la révolution qu'avait mis bas la monarchie, mais qui n'amenait pas du tout les travailleurs vers leur propre pouvoir. Alors donc, derrière des choses qui peuvent apparaître à une époque donnée des nuances, il peut y avoir des choses bien plus profondes qui ont des conséquences bien plus graves dans des événements révolutionnaires. Et c'est ça qu'il faut essayer de, je pense, de comprendre aujourd'hui par rapport à ce qui apparaît peut-être pour vous comme des nuances entre des gens qui tous contestent le système capitaliste. Mais cette façon différente de contester le système capitaliste, peut-être que demain, elle sera porteuse de perspectives assez différentes.
Non, mais c'est une question de temps aussi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a très longtemps, j'entendais aussi ce discours et on voit que ça n'avance pas dans l'opinion. Là, est-ce que c'est les masses qui sont abruties ?
Moi, je pense pas du tout ça. Moi,
ben non,
je pense
moi
que
non plus.
Je pense que
donc il y a une raison de fond.
Les raisons de fond, c'est que ce système capitaliste, il utilise tout un tas de moyens, des moyens qui peuvent être la division des travailleurs. Il a aussi à son service tout un tas de partis qui ont brouillé les cartes. Les révolutionnaires sont très minoritaires, mais en même temps. C'est un peu logique que dans une situation qui n'est pas révolutionnaire, parce que les masses ne peuvent pas être révolutionnaires en permanence, eh bien ceux qui portent des idées révolutionnaires soient minoritaires. Ça n'a pas une logique, ça ?
Oui.
Donc la révolution n'est pas un phénomène qui surgit par la volonté des militants révolutionnaires. La révolution, c'est quelque chose, c'est une évolution dans les consciences de centaines de milliers et de millions de gens, de travailleurs, d'une part, et puis plus largement dans la société, face à des événements qui, peu à peu, vont montrer par eux-mêmes des choses. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est l'exploitation qui va, par elle-même, comment dire, amener les travailleurs à la révolte. De même que les Gilets jaunes, ils ont été amenés à la révolte par le fait qu'ils étaient étranglés déjà par le prix de l'essence. C'est pas par hasard que ce mouvement est né beaucoup dans les campagnes ou dans des petites villes rurales où les gens ont besoin de leur voiture, etc. Et les gens, quand ils sont acculés, le système les accule à un moment donné, ils vont se révolter. Après, ce qu'ils trouveront comme perspective dans leur révolte, c'est une vraie question et je pense que c'est là où nous, les militants, on a notre rôle à jouer.
Alors justement, je reviens à ma question tout à l'heure. Demain, Anne Brunet est présidente de la République ou chef du Soviet français, comme vous voulez. Mais,
c'est pas tout à fait la même chose.
Non. Ouais, je vous provoque exprès, bien sûr. Mais vous m'aviez dit donc Assemblée générale, mais qu'est-ce que je vois d'autre depuis ma fenêtre qui a fondamentalement changé la société ?
Eh bien, les travailleurs en armes, parce que face à l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'État avec sa police, son armée, vous avez vu comme moi comment simplement des manifestations et un mécontentement profond qu'exprimaient les Gilets jaunes, où il y avait des tas de gens plus que pacifiques et même très tranquilles qui venaient se rassembler sur les ronds-points, etc. Comment très vite on les a dégagés, parfois à coups de bombes lacrymogènes, parfois, enfin bon.
Donc vous prenez les armes.
L'État, il mettra en face des révoltes tous les moyens dont il dispose pour la répression. On en a vu des un petit aperçu à l'occasion de certaines des manifestations récentes. Et je pense que, eh bien, effectivement, il faudra se battre à un moment donné.
Ah oui, donc vous appelez des armes, c'est ça, vous avez dit tout à l'heure.
Bah, qu'est-ce qu'ils ont en face ? Ils n'ont pas des armes.
Ah non, mais je pose la question. Donc vous appelez une révolution armée en France ?
Dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier, dont la France.
Oui.
À prendre les armes.
J'appelle pas aujourd'hui à prendre les armes. Je pense que quand on se révolte et qu'on a en face des gens qui nous tapent dessus, il faut être prêt à se défendre.
Alors de toute façon, ma question portait sur l'après. Une fois que vous avez gagné, le monde, il est comment ? J'ai compris qu'il y avait des assemblées générales pour tout.
Alors, il y a des assemblées générales pour tout.
Est-ce qu'il y a du nucléaire encore ?
Alors ça, je pense que c'est pas à moi de le décider, c'est pas à moi de le dire.
Ouais.
Je pense que justement, ça, sur tout un tas d'aspects de la société, bien justement, il y aura des choix démocratiques. Parce que franchement, le nucléaire, qu'on soit pour, qu'on soit contre, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que ceux qui ont décidé, ils ont décidé pour les industriels français. Le choix du nucléaire dans les années 60 ou 70. Là, tout ça, c'est pas des choix démocratiques, en réalité.
Alors, la monnaie, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, moi, je pense que dans une société communiste, il n'y aura plus de monnaie.
Oui. Tout le monde touchera la même chose ?
Non, on ne touchera plus rien. C'est-à-dire qu'on échangera notre... Alors, ce n'est pas pareil, parce que toucher quelque chose, si tout le monde touche la même chose, alors qu'on n'a pas les mêmes besoins, ce n'est pas forcément juste. Et moi, je suis pour une société qui soit juste. Dans la mesure où aujourd'hui, celui qui, je sais pas, qui va toucher 1500 euros de revenus, il a peut-être 4 ou 5 personnes à nourrir et à loger avec ce salaire, tandis que celui qui est seul avec ses 1500 euros, il vivra beaucoup plus facilement. Bon, ça, c'est pas forcément juste. C'est un aspect.
Oui, d'accord, on peut le pondérer, surtout, mais sur des besoins.
Surtout sur l'essentiel. C'est qu'il y aura plus, parce qu'on entend aujourd'hui beaucoup de gens. Moi, quand je discute, que ce soit avec des travailleurs, que ce soit avec des gens d'autres catégories, j'entends souvent, de toute façon, des riches et des pauvres, il en faudra toujours. Eh bien ça, moi, je dis non. Non, je pense que des riches, il n'y en aura plus, et des pauvres, il n'y en aura plus. Déjà, ça, c'est la première chose. La façon dont la répartition de la richesse se fait, et tout ça, on peut en discuter, mais déjà, il y a une chose qui sera... Non, mais il y a déjà une première chose qui sera abolie, c'est l'existence de riches, de grosses fortunes, de gens qui cumulent des milliards, comme on le voit aujourd'hui, ou même des millions. Je pense que tout ça, ça n'existera plus parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. Oui, personne n'a besoin de ça. Ça, c'est de l'argent pour donner du pouvoir et pour vivre dans un luxe qui est complètement inouï. Et ça, moi, je pense qu'une des premières choses, c'est déjà de déposséder tous ces capitalistes.
Non, mais ça, vous avez gagné, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe après ? Où en sommes-nous après ?
Ça ne se fera pas comme ça, quand même. C'est quand même des choses importantes à discuter. Et en tout cas, le résultat...
Mais pas que.
Le résultat... Enfin, moi, je tiens à le dire, quand même. C'est quelque chose de tout à fait important dans un monde où les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer qu'il pourrait y avoir une société où on éradique la pauvreté, où on éradique les inégalités sociales et qu'il n'y ait plus de riches et plus de pauvres. Eh bien, il n'y aura plus non plus des travailleurs et des oisifs. Il n'y aura plus, d'un côté, des gens qui passent leur vie à bosser pour réussir à vivre simplement normalement et d'autre part, des gens qui peuvent vivre toute leur vie de loisirs sans rien faire, jamais. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'il y aura ? Ça veut dire qu'on partagera le travail entre tout le monde, tout le monde participera à une activité productive ou une autre, et j'espère qu'elles seront variées, qu'on fera... Et je pense qu'il sera possible de ne pas faire toute sa vie la même chose, mais au contraire de participer à des tâches variées, manuelles et intellectuelles, qu'on tirera vers le haut le niveau culturel d'une façon très importante, et que tout le monde, même ceux qui ont une formation intellectuelle qui leur permet de faire uniquement des travaux, je ne sais quoi, de comptable ou de chercheur, etc., ils participeront aussi à d'autres tâches, tout sera partagé, et il y aura surtout... pas de gens qui nous commandent. Les choix seront faits collectivement. Et ça serait très,
donc,
très, très important.
Il n'y aura pas de salaire, disiez-vous ?
Non, je pense que les salaires, à un moment donné, l'évolution de la société permettra d'éliminer cette norme qui permet et cette mesure, finalement. Mais ça, il faudra que la société soit suffisamment développée pour que ce soit devenu possible.
Allons jusque-là. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a plus d'argent non plus ?
Oui.
Donc on troque ?
Eh bien, on troque notre force de travail, notre participation aux tâches utiles à la société contre tout ce que la société peut nous rendre, effectivement, tout ce que l'activité des autres autour de nous peut nous rendre.
Mais qu'est-ce qui vous différencie de l'anarchie, finalement ?
Eh bien, sûrement pas les buts. Probablement, de ce point de vue-là, on est relativement proche des anarchistes. Et ce qui nous différencie profondément des anarchistes, c'est plutôt les moyens d'y arriver et la nécessité d'une part d'un parti et d'autre part la nécessité de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire l'exercice d'une force organisée contre la classe riche jusqu'à ce qu'elle disparaisse.
C'est-à-dire qu'il y a un temps de passage qui est différent, qui s'appelle donc la dictature du prolétariat. Le prolétariat prend tout le pouvoir. Et comment ça marche, ça ?
Ça marche, j'ai essayé de l'évoquer tout à l'heure. Justement, ça marche d'une façon... avec la démocratie ouvrière. Quand j'évoquais les assemblées générales et tout ça, moi je pensais à cette période où les travailleurs en armes, mobilisés, décident, votent. Oui, mais c'est ça la révolution, c'est ça la dictature de prolétariat. C'est-à-dire que ceux
c'est
qui décident...
Pas une fin en soi.
Ah non, je peux finir ma phrase ?
Non, j'ai pas fini ma question.
Ceux qui décident... Ça change demain. Aujourd'hui, ceux qui décident dans les entreprises, dans la société, partout, ce ne sont jamais les travailleurs. Jamais. Ceux qui décident à l'hôpital, c'est un directeur qui représente les intérêts des banques, auprès de qui l'hôpital est endetté, etc. C'est jamais les gens qui font fonctionner l'hôpital. À l'usine, c'est pareil, etc., etc. La dictature du prolétariat, c'est quand c'est les travailleurs qui décident non seulement sur leur lieu de travail, mais qui décident aussi de la vie sociale en général. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut quand même arracher le pouvoir à ceux qui ont les moyens de payer, oui, des armées, des mercenaires, etc. Et tout ce qui nous fait taire, en fait.
Mais la dictature du prolétariat, c'est une fin en soi ou c'est un temps de passage ?
Ah, bah, c'est pas une fin en soi, bien sûr. C'est quelque chose de très transitoire.
Hein. Non, parce qu'à chaque fois... En gros, si j'ai un reproche à vous faire, c'est ça. C'est que vous restez toujours sur cette phase-là. Et j'entends pas grand-chose sur ce qu'il y a derrière. Ce qui m'intéresse, c'est le but. Et pas simplement le moyen.
Alors,
le moyen, vous me dites
que
la révolution en tant que telle, c'est aussi un moyen. C'est pas une fin en soi. On va pas vivre pendant des millénaires en révolution
permanente.
D'ailleurs,
c'est tout à fait impossible. Il n'y a jamais de révolution pour plus de quelques années, etc.
Donc, les riches, le capital, le machin, le truc, ça je l'entends.
Ça
je l'entends. Et vous savez bien que c'est un reproche qu'on vous fait très régulièrement sur à peu près tous les échelons. On parle, voilà, de. La police, l'armée, les riches, le capital, et tout ça fait système, et que vous faites la révolution, et les dictatures du prolétariat, ok, mais après. Et moi j'ai besoin de savoir ce qu'il y a après, faites-moi
justement
rêver,
parce que je ne vais pas vous faire rêver, pourquoi ?
Parce que c'est pas vous qui décidez.
Non, laissez-moi finir une fois de plus. Je ne vais pas vous faire rêver.
Et oh, oh, oh.
Bah oui, parce que si je fais une demi-phrase et puis que je suis coupée, c'est un peu compliqué de développer des idées.
Mais non.
Donc, pourquoi je ne vais pas vous faire rêver ? Parce que nous, on n'a pas un modèle tout fait de société, c'est-à-dire que les socialistes du 19e, et de faire en sorte que toutes les forces sociales, économiques, etc. de cette société, se développent dans tous leurs moyens pour que tout le monde en profite. Mais les choix qui seront faits, les options, tout à l'heure vous évoquiez le nucléaire, bon, ces options-là, ce sera la société, ce sera justement dans ce contexte-là, tout l'ensemble de la société qu'en décidera. Et ce qui sera très différent et ce qui ne permet pas de décider, ce n'est pas à moi de dire et de décider ce que demain les gens choisiront si on est dans une société communiste, si il vaudra mieux utiliser tel ou tel type d'énergie, produire ci ou produire ça, etc. Et justement, nous, la société à laquelle on aspire et le communisme, ce sera une société démocratique où ce ne sera pas le capital et la richesse qui décidera de tout. Mais ce n'est pas une société qu'on a imaginée comme un truc qu'on monte par avance en Lego, là, ou là, une maquette qu'on fait par avance, et puis qu'après, il faut que ça rentre dans le moule. C'est pas du tout ça, notre vision des choses.
En fait, ce que vous voulez, c'est arracher des mains des capitalistes la gestion des usines, des banques, des mines, des terres, de l'énergie, des transports, et de faire en sorte qu'ils appartiennent à la collectivité et qu'ils soient gérés par elle. Vous pensez que tous les travailleurs veulent ça ?
Eh bien, est-ce que les travailleurs le veulent aujourd'hui ? Les travailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur travail et de leur salaire. Mais le problème, c'est que pour pouvoir vivre dignement d'un travail et d'un salaire, il faudra en passer par là. Parce que ce qu'on voit, c'est que dans la société capitaliste, on l'a vu au long des décennies, où tout un tas de courants politiques différents se sont succédés au pouvoir, et si on compare différents pays, différentes personnalités au pouvoir, etc., aucun, et différentes perspectives politiques qui ont été données à un différent moment, aucun des problèmes du capitalisme n'a jamais été résolu. Et vous voyez à quel point la crise du capitalisme, elle nous plonge aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine dans les mêmes maux que l'humanité a connus il y a 50 ans, dans la période où je suis née, par exemple, hein, où il y avait la guerre du Vietnam, où les Américains, ils étaient en train de ratatiner le peuple vietnamien sous des tapis de bombes, de napalm, etc. Bah, Poutine, il fait la même chose avec l'Ukraine aujourd'hui. La société capitaliste, elle génère les mêmes maux les décennies passant parce qu'elle a les mêmes contradictions profondes. Effectivement, il suffit pas de se dire on aimerait bien vivre simplement, vivre chacun sa petite vie tranquille et sans satisfaire. Bien sûr que tout le monde peut se dire que ça suffit, mais à un moment donné, ça suffit plus pour vivre, parce que même le salaire qu'on obtient durement par son travail, il ne suffit plus pour vivre correctement. Qu'au 15 du mois, il n'y a plus assez pour mettre des choses correctes dans le frigo, etc. Et en plus, au-delà de ça, ce monde, il nous menace en permanence de guerre. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, on évoquait la citation de Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Mais si Jaurès, il disait ça à la veille de 1914 et de se faire assassiner, cette phrase, elle est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui quand on voit la guerre en Ukraine.
Vous m'avez enlevé ma citation de la fin, tant pis pour vous.
Mais c'est pour dire que non, on ne peut pas se satisfaire de vivoter en se disant le capitalisme il m'opprime, finalement je survis et on peut se contenter de ça. Mais non, on ne peut pas se contenter de ça. Même quand on vit de son travail avec un emploi et un salaire, on voit à quel point on régresse. Et avec cette menace en plus, cette épée de Damoclès, que sont les guerres, qu'est la menace climatique,
etc. J'ai bien compris votre dénonciation, mais je ne comprends pas encore votre réponse à cette question, ce qui fait que les gens n'ont pas encore adhéré à votre discours.
Il faut aller leur demander. Est-ce qu'ils le connaissent déjà ?
Vous leur demandez tous les 5 ans. C'est pour ça que vous participez aux élections d'ailleurs ?
Pour se faire connaître et faire connaître nos idées, bien sûr. Comme tous les candidats ont un programme à défendre, et nous aussi, même si beaucoup de journalistes oublient qu'on a des propositions sur des tas de choses, parce que c'est pas qu'au moment d'une émission télévisée de TF1 qu'on n'est pas invité. C'est partout. Et puis il y a un autre problème. C'est que la solution, nous on ne dit pas qu'elle est électorale. C'est-à-dire que le bulletin dans l'urne, on essaie de... Évidemment, il faut s'en servir. C'est utile de se prononcer, de voter pour ses idées. Moi, je pense que c'est utile. Il faut s'exprimer, il faut défendre ses convictions dans la société, même si ce n'est pas la société qui nous convient. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers ces élections, défendre ses convictions. Mais en même temps, on dit, nous, aux travailleurs, que notre sort collectif ne changera pas uniquement par les élections. Et après, ça veut dire qu'il y a une autre phase, il y a un autre cap à passer, c'est la mobilisation collective. Et ça, si aujourd'hui les travailleurs ne sont pas prêts à se mobiliser, pourquoi ? Pour de multiples raisons. En tout cas, on pense qu'à un moment donné, et on est même sûr qu'à un moment donné, les révoltes, elles surgiront. Donc nous, on prépare ces moments de révolte.
Alors, il y a une autre question qu'on vous pose sûrement très souvent également, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un peu confortable, votre position ? Depuis 50 ans, de dénoncer.
Venez militer avec nous, on verra si vous ferez votre idée, si c'est confortable.
Oui, c'est assez confortable, je trouve. Enfin, je me fais évidemment l'avocat du... Enfin, vous ne croyez pas à Dieu ni à diable, donc ce n'est pas la peine d'être, d'être leurs avocats. Mais ma question, vous l'avez anticipée, en fait. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de rester dans un confort depuis 50 ans que je vois Arlette Laguiller ou Nathalie Arthaud à la télévision, à faire de la dénonciation, puis
Je vais vous donner une réponse. Il y a bien plus de gens qui militent dans des partis qui vont leur donner des prébendes. Petite place, une sinécure, un poste,
j'ai essayé,
etc.
On m'a rien donné,
moi. Ouais, enfin bon, je peux vous dire qu'Arlette Laguiller ou Nathalie Arthaud, elles auraient sûrement une vie bien plus confortable en acceptant une carrière dans un parti qui leur aurait donné un poste. Enfin, en tout cas, je parle d'Arlette Laguiller qui est maintenant retraitée. Elle aurait pu sûrement aller vers toute autre chose, comme des tas de gens le font à travers des partis qui soient socialistes, prétendument socialistes. Enfin, il a cette étiquette-là.
Oui, évidemment.
Et bien d'autres. Et s'il y a assez peu de gens qui militent chez les révolutionnaires, c'est que c'est peut-être pas si confortable que ça. Ça n'offre pas de place, d'argent, de sinécure.
Non mais je pensais sur un confort intellectuel, pour tout vous dire, j'ai un beau-frère qui est votre photocopie, donc j'ai droit à ces discussions à peu près une fois par an, tous les 15 août à peu près, ça fait 50 ans qu'il me dit la même chose, et ça n'avance pas.
Moi je sais pas ce qu'il dit, je le connais pas votre beau-frère, mais
vous avez tort.
Si la
il
société,
mérite d'être connu.
Si, peut-être, je ne dis pas le contraire, mais ce qui n'avance pas, c'est pas nous. C'est la société capitaliste qui stagne et qui s'enfonce dans sa pourriture.
Je suis
désolée d'utiliser des termes choquants, mais le monde capitaliste, il domine la planète entière, d'accord ? Donc le problème, il est plus vaste à résoudre que ce qu'une petite organisation comme Lutte Ouvrière peut faire. J'essaie de faire un raisonnement parce que c'est quand même un problème qui est très global. Le capitalisme, il a connu une expansion à l'échelle de toute la planète. Il domine toute la planète avec des échanges très importants. Partout, il suscite des oppositions.
Oui.
Partout, il suscite des révoltes. Partout, il suscite de l'opposition. Mais effectivement, face à sa puissance, mais une puissance qui a aussi une fragilité, parce que quand on voit les crises, c'est un système qui pourrit tellement de l'intérieur.
J'ai compris la dénonciation.
Mais qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque des partis révolutionnaires.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu intellectuellement confortable de rester dans cette dénonciation sans aller plus loin, sans mettre les mains dans le réel ?
Vous pouvez me poser 10 fois la même question. Moi, je vous ai répondu.
Oui.
Si vous trouvez ça très confortable, venez avec nous.
Bon, alors, je reposerai ma question à mon beau-frère. Je serai 15 août, alors. Est-ce que vous croyez au fait national ? Est-ce que pour vous, la France, c'est un mot qui a un sens ? Ça n'a aucun sens. Vous êtes internationaliste.
Absolument. J'ai une carte d'identité française, mais ma patrie, c'est l'humanité. C'est le monde du travail, c'est tous ceux qui font fonctionner cette société, qu'ils soient ici ou de l'autre côté de la frontière, qu'ils soient du côté de l'autre côté de la Méditerranée, ou en Chine, ou en Amérique du Sud. Mes frères, ils sont partout.
Ça vous arrive de douter ?
Non, pas de ça en tout cas. Pas de ça. De douter d'autres choses dans ma vie personnelle, mais...
Politiquement, vous n'avez aucun doute ?
Non.
Mais c'est le doute, ça fait avancer, non ?
Sûrement.
Bah, mais vous avancez aussi. Est-ce que vous sentez que votre militantisme a progressé depuis que, forcément, depuis
bien
que vous
sûr, êtes entré en bien 86. Sûr, mon militantisme, il a progressé. Je ne suis pas la même qu'il y a 20 voilà, ans, on voilà. est d'accord. Hein. Mais ça, c'est vrai de tout individu.
Mais donc, vous doutez ?
Pas forcément. Progresser, c'est pas forcément seulement avec le doute, c'est aussi avec l'expérience.
En tant que marxiste, vous devriez adhérer à cette idée.
Non, mais vous voulez parler philosophie, mais ma philosophie...
Alors, quelle est votre philosophie ?
Ma philosophie, c'est la philosophie matérialiste. Ouais. C'est-à-dire que, athée, bien sûr, même le matérialisme englobe l'athéisme.
On peut pas être croyant et révolutionnaire ?
Oh, sûrement qu'on peut être croyant et révolutionnaire, mais pas croyant et marxiste et communiste. Mais révolutionnaire, oui, il y a des tas de gens qui ont fait la révolution et qui aspirent à la révolution et qui peuvent très bien être croyants.
Mais on peut être à lutte ouvrière et croyant.
Non. Non.
Ah non,
c'est marrant, j'ai déjà entendu cette question posée à Nathalie Arthaud il n'y a pas longtemps.
Ah bon ? Et elle a dit non aussi ?
Je ne sais pas si vous le découvrez, mais c'est que vous n'êtes pas beaucoup intéressé au mouvement communiste, mais les communistes sont des athées. Vous avez déjà entendu parler des textes de Marx et des écrits de Marx. Marx, quand on est marxiste, on dénonce la religion, les religions, d'ailleurs, le peuple.
J'ai pas dit de religion, j'ai parlé de croyance. Moi, j'ai lu le Capital et j'ai lu le manifeste du Parti communiste Engels, mais est-ce que vous avez lu les Actes des Apôtres ?
Non. Non, ni les textes de Bouddha, ni ceux de l'islam, ni rien.
Mais vous devriez regarder les Actes des Apôtres, parce qu'il est question de communisme.
D'accord, mais enfin bon.
Non, mais c'est pas la peine d'être méprisante.
Non, mais je suis pas méprisante, mais vos conseils de lecture, ils sont peut-être très intéressants, mais je vous rappelle que des gens qui souvent nous reprochent d'avoir des idées qui n'ont pas changé, justement depuis Marx, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, depuis le manifeste communiste de 1848, etc., les religions, toutes ces religions et toutes ces croyances, elles datent d'il y a bien plus longtemps et elles correspondent à une société qui n'était pas la société capitaliste d'aujourd'hui.
D'accord.
Et justement, les idées de Marx, elles ont analysé, décrit les mécanismes de la société capitaliste dans laquelle nous vivons encore. Et tout ce que Marx avait décrit, ça n'a fait que prendre de l'expansion, en fait, dans le monde capitaliste. Et c'est pour ça que je pense que ces textes, ces idées sont d'une valeur sans commune mesure pour nous, comme guide, comme outil d'analyse et comme moyen de compréhension de notre monde, les textes de quelque religion que ce soit.
Mais je retiens qu'il est incompatible d'être membre de lutte ouvrière et d'être croyant.
Oui, c'est exact.
D'accord. Si vous partez sur une île déserte, vous emportez quel livre ?
Je n'ai aucune envie de partir sur une île déserte et j'emporterai beaucoup de bouquins parce que qu'est-ce que je m'ennuierais là-dessus ? Qu'est-ce que j'irais faire sur une île déserte ? Au secours ! C'est pas parce qu'il y aura un palmier le soleil, ça ne m'intéresse pas.
Bon, une île déserte, on dit forcément qu'il y a du soleil et des palmiers, peut-être des pingouins et de la glace.
Ouais, peut-être, c'est encore pire.
Est-ce qu'il y a une question, Anne Brunet, que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû vous poser ?
Il y a des tas de questions qu'il faudrait encore discuter.
Bon, ben. On discutera une prochaine fois.
Tout à fait.
C'était Parcours avec Anne Brunet. Merci.